Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM, soyez les bienvenus dans notre émission Entre chiens et loups avec Claude Lévy. On est dans une émission de culture et là ce soir il va être encore plus que jamais question de culture. Ce soir j'ai le grand plaisir d'accueillir Jocelyne Sauvard, journaliste, auteur de théâtre, essayiste et connue pour son œuvre considérable de biographe. Plus de 40 ouvrages publiés, de romans aussi, et une manière très personnelle de raconter la vie des grands personnages, artistes, comédiens, femmes et hommes politiques. Nous l'avons reçue pour sa superbe biographie de Jeanne Moreau, puis pour l'histoire du couple Yvonne et Charles de Gaulle. Elle sait tresser les deux fils de la vie et de l'œuvre de ces personnages entre intimité et vie publique. Elle nous fait l'honneur de revenir dans notre studio d'Anguin avec un livre très original, déjà très apprécié des spécialistes de Proust. Original parce qu'il dévoile la face cachée de Marcel Proust, dont on commémore en ce mois de novembre le centenaire de la mort. Cette face cachée étant celle de son attirance pour les femmes, pour le corps des femmes, lui qui est souvent présenté comme le modèle un peu snob et hypersensible du garçon qui n'aime que les garçons. Bonsoir Jocelyne Sauvard.
Bonsoir.
Pardon, merci de nous avoir rejoints ici dans notre studio à Anguin à l'occasion de la publication de ce nouveau livre sous votre plume, Proust à l'ombre des femmes. C'est un titre qui rappelle évidemment à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Mais on en parlera tout à l'heure aux éditions Écriture. Il y a de très nombreuses portes pour pénétrer dans l'œuvre de Marcel Proust. Vous en avez choisi une qui est vraiment tout à fait particulière. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous avez voulu faire et comment vous vous y êtes prise pour entrer par cette porte du goût pour la féminité de Marcel Proust.
Eh bien, parce que je l'ai ressenti dès que j'ai lu Marcel Proust, en fait. Et enfin, j'étais très jeune, j'avais 15 ans, j'avais lu Un amour de Swann, qui m'avait emballée. D'abord, il m'avait fait beaucoup rire avec le petit clan de Madame Verdurin. Et puis, il m'avait fascinée en racontant l'amour de Swann et Odette. Et la part prépondérante de la jalousie. Et puis, des faux semblants, et puis des choses qu'on attend et qui n'arrivent pas, et puis autre chose arrive. Voilà. Et donc, à partir de là, je me suis lancée dans toute la recherche, les jeunes filles en fleurs, et la suite. Et à cette époque-là, donc, j'avais l'âge des héros. Donc, je m'assimilais très, très facilement aux jeunes narrateurs, c'est-à-dire le narrateur de la recherche, c'est-à-dire pas complètement Marcel Proust, mais son narrateur créé, et puis en même temps à celle des jeunes filles, plus ou moins, qui m'étonnaient parce qu'elles étaient très différentes toutes, et en même temps très différentes de moi, mais elles avaient un même amour pour la beauté, la mer, la littérature.
Alors, y a quelque chose de très particulier dans ce livre, c'est que vous jouez comme étant un peu l'ombre, le fantôme de Marcel Proust, son double en quelque sorte. Vous êtes la narratrice d'un roman qui a une musicalité évidemment très proustienne. J'aimerais que vous nous disiez si c'est une sorte de roman sur le roman que vous avez voulu écrire avec à l'ombre, Proust à l'ombre des femmes.
C'est un essai et un roman à la fois. C'est un essai, mais il y a une part grande, faite à la fiction. Mais à vrai dire, pour tout vous avouer, vous me parliez de mes biographies, de mes romans, etc. Les biographies de grandes personnalités de notre temps ou de l'histoire, ou plutôt du monde des arts, eh bien, ce sont toujours des films que j'écris. Ce sont des films, c'est-à-dire qu'on entre dans l'histoire, on vit avec eux, mais en même temps, on a un petit passage pour notre imaginaire. On peut imaginer ce qu'on veut et vivre avec eux. Alors là, en fait, j'ai choisi une narratrice, eh bien, en m'inspirant évidemment de la recherche, de toute la recherche. Marcel Proust avait choisi un narrateur, mais aussi d'une autre chose. J'ai trouvé très, très intéressant une œuvre moins connue, Contre Sainte-Beuve. C'est à la fois un essai, une critique littéraire de Sainte-Beuve, parce que Sainte-Beuve pensait qu'un écrivain ne va chercher son inspiration que dans sa vie privée et raconte une espèce de journal de sa vie, ce qui est entièrement faux. Il y a l'imagination qui est vraiment prépondérante. Et en même temps, il y a aussi des articles, des pastiches et une partie puisée dans la réalité qu'il a appelée « Conversation avec maman ». Alors, donc, j'ai suivi cette trame, j'ai essayé de suivre cette construction. Et voilà, bien m'en a pris parce que comme ça, à mon avis, et puis à l'avis de ceux qui m'ont lu, parce que comme ça, c'est clair, si vous voulez. Alors, en quelque sorte, pour ceux qui découvrent Marcel Proust, ou qui n'ont jamais pu entrer, comme ça arrive souvent, ou qui ont essayé 13 fois, et puis ça ne marchait pas, eh bien, j'ai pensé faire, si vous voulez, un peu une mini-biographie dans l'avant-propos, histoire de se rafraîchir la mémoire, sur Proust, les femmes qu'il aimait, sa mère d'abord, dont il avait fait un personnage pour son livre, maman, et puis sa grand-mère, et puis ensuite les jeunes filles qu'il rencontrait. Et ensuite, j'ai aussi... bien donner une place à la jeune narratrice qui est fascinée devant ce grand monsieur, ce grand seigneur, qu'elle lit, qu'elle admire. Et vous imaginez, elle a 16 ou 18 ans, l'âge d'une jeune fille en fleurs, et on lui a dit, enfin Breton, André Breton lui a dit, voilà, il faut aller, Gallimard a nous embaucher pour faire les corrections des épreuves, mais on ne tient pas le coup, il faudrait quelqu'un pour aller corriger les épreuves déjà corrigées. Donc, à chaque fois que Marcel Proust l'a fait appeler, elle s'occupe de ses épreuves, regarde s'il manque un S.
C'est une narrative, une narratrice un peu fictive, évidemment, qui oui. peut vous ressembler beaucoup, même.
Voilà, c'est ça. Qui peut me ressembler, mais ce n'est pas moi, hein, je le précise. Voilà. Et puis, en fait, oui, là, elle a... comme l'histoire commence en 1921, en décembre, à la fin de la vie de Marcel Proust, qui n'a plus que 10 mois à vivre. En fait, la jeune fille, elle a 18 ans à cette époque-là, vous voyez. Mais c'est aussi la narratrice qui va nous donner la mesure du temps. Parce que comme elle va vivre plus longtemps que Marcel Proust, elle va vivre jusqu'en 1984, eh bien, comme Céleste, eh bien, enfin, pas autant, mais enfin, bref, un petit peu... la ligne de Céleste, eh bien, elle nous donne le temps. Elle peut nous dire, oui, mais en fait, 20 ans plus tard, il a fait ceci, ou un tel a parlé de lui, on l'admirait en Amérique, au Japon, ce qui est le cas, etc.
Alors, vous avez aussi un admirateur particulièrement recommandable, c'est en la personne de Jean-Yves Tadié, qui, en lisant votre livre, Proust, à l'ombre des femmes, vous écrit quelques mots très, très justes d'ailleurs, si je peux me permettre, très gentils aussi. Proust à l'ombre des femmes, si original par son style et par ses formes variées, de l'essai au roman très sensible. Voilà quand même une sorte d'accréditation remarquable de Jean-Yves Tadié, le grand spécialiste de Proust.
Le grand spécialiste.
Le grand spécialiste français de Proust qui a édité lui-même ses propres travaux sur Proust et qui a été l'éditeur de l'édition de la Pléiade en deux volumes de l'œuvre de Proust. Alors, vous qui fréquentez Marcel Proust et ses depuis des années son œuvre dans tout ce qu'elle a de complexe, à la fois de personnel, comme vous disiez sur ce journal avec maman, le contre Sainte-Beuve, bien sûr. Mais aussi Sésame et Lelys, mais aussi sa correspondance. Vous connaissez la recherche que vous avez lue plusieurs fois, évidemment.
Oh, mais 25 ou 30 fois, je ne sais pas. je la relis tous les ans, si vous voulez, ou alors je la lis dans le désordre, j'emmène en vacances. Enfin, je ne pars jamais sans la recherche.
Alors, du coup, vous avez eu quelque chose qui vous a sauté aux yeux. C'est cette relation qui est assez peu connue, assez mise en valeur avec les femmes. Et comme tout commence par l'enfance, chez les écrivains en général, tout commence par l'enfance, j'aimerais vous citer quelques lignes de votre livre, ça se trouve page 128, et voilà ce que vous dites. Enfant, Marcel révérait déjà les femmes. À l'adolescence, attiré par la fraîcheur de leur teint, la douceur de leur peau saine et la nature plantureuse de leur poitrine, ils vouaient une dévotion à leur beauté. Voilà quelque chose qui est là extrêmement original.
Je l'ai pris chez lui, c'est lui qui a employé le mot peau saine qui m'a beaucoup étonnée et le qualificatif poitrine plantureuse. Il était fasciné par les seins des femmes, je m'en suis aperçue, au cours des lectures, des relectures, des notes en bas de page, des lettres, etc. Il était en admiration.
Alors, vous pourriez nous dire, vu la connaissance que vous avez de tout son travail, de tous ses écrits, de sa correspondance et tout cela, où est-ce que vous avez trouvé cette fascination pour la beauté des femmes, est-ce que c'est plutôt le côté esthète qu'il avait, puisqu'il connaissait très bien l'histoire de l'art, la statuaire, mais aussi la peinture, ou bien est-ce que charnellement il y avait quelque
charnellement,
chose ?
C'est sensuel, c'est charnel. Il en rêvait depuis qu'il était très très jeune, puisque déjà... très jeune, vers les 11 ans, il était en admiration devant sa petite cousine. Et en fait, Madame Proust ne tenait pas trop à ce qu'il s'isole avec elle. Et ensuite, à 14-15 ans, quand il fréquente les jardins des Champs-Élysées, il tombe... Je parle de la réalité, hein. Là je parle de Marcel Proust. Il tombe amoureux fou de la jeune Marie de Bénardaki, qui était très jolie et qui était très vive, rieuse, etc. Et il est en admiration devant elle et il joue avec elle au jardin des Champs-Élysées et il ne pense qu'à elle. Et voilà. Ça, il le révèle un petit peu dans Jean Santeuil, en changeant les noms.
On est à Paris. Dans la recherche, c'est Gilberte peut-être qui est cette jeune fille qu'il adore retrouver aux Champs-Élysées et jouer avec elle.
C'est un peu Gilberte, c'est un peu d'autres personnages qu'on trouvera après. À chaque fois, Marcel Proust l'a bien dit, il y a 1000 clés pour la recherche et il y a 10 ou 20 clés pour chaque personnage et puis il y a surtout tout l'imaginaire parce qu'il le crée son personnage. Alors c'est un peu Gilberte mais c'est aussi un petit peu Albertine. Et ce qui m'a frappé, ce que j'ai lu dans les différentes esquisses, ce que j'ai compris, c'est que quand il parle de la peau des femmes, quand il parle de leur douceur, de leur carnation, de la couleur, du toucher, de la délicatesse, mais tout ça il le connaît. Mais qu'on ne me fasse pas croire, ça jamais, qu'il ne connaît, au point de vue buste, que le buste de son chauffeur et secrétaire, Alfred Agostinelli. On se tue à dire, mais il a pris tous les côtés d'Alfred Agostinelli qu'il a remplacé dans Albertine. C'est faux, il les connaît, il suffit de lire, on voit bien qu'il est au courant, qu'il a palpé, qu'il a touché, ou s'il n'a pas palpé et touché, eh bien, il en a rêvé, il l'a fantasmé, il l'a désiré, et il connaît parfaitement l'attrait du corps féminin.
Alors ça, c'est vraiment une lecture extrêmement féminine de Marcel Proust, et je trouve que ça donne une dimension assez nouvelle, et c'est en ça que votre livre est très, très intéressant, très original, très surprenant et très sensuel en même temps. Alors, un des premiers personnages qui figure dans ce livre, Proust à l'ombre des femmes, qui n'est pas totalement humain, qui est un décor, qui est un lieu mystique, magique, c'est Venise. Venise est une sorte de personnage dans... C'est une femme.
Voilà, Venise est une femme pour Marcel Proust.
Et bien sûr, et c'est la féminité de Venise qui lui paraît, et qui vous paraît aussi tellement puissante. Que représente en fait Venise dans sa vie et dans son œuvre à Marcel Proust ?
C'est un fantasme depuis l'enfance, c'est un grand rêve. Quand il était très jeune, son père avait le père de Marcel Proust, on ne parle pas du narrateur, avait déclaré que ce serait bien qu'il parte en vacances à Venise. Alors, enfant, il ne rêve qu'à ça, il avait lu du texte sur Venise, et puis surtout, il avait vu des lithographies, des représentations, et il aimait les peintres, le Titien, etc. Donc, il voyait ces belles femmes, admenues, complètement nues, leurs belles chevelures, etc. Il ne rêvait qu'à ça. Et donc, malheureusement, il tombe malade, encore une fois, et donc, pas de voyage à Venise, mais alors... Venise est dans son imaginaire, c'est son rêve, il rêve le voyage. Et un beau jour, il a presque 30 ans, sa mère lui offre un billet pour Venise et ils partent tous les deux. Et là, elle est très discrète, là, elle le laisse découvrir la ville telle qu'elle est, dans sa crudité, dans sa féminité, enfin elle ne sait pas, elle le laisse tranquille. Et là, il retrouve Reynaldo Hahn, son ami et... pour lequel il a eu une grande passion pendant 2 ans, et puis aussi la cousine de ce dernier, qui est Marie Nordlinger, une jeune Anglaise sculpteur.
Nous allons évoquer évidemment ce séjour à Venise, mais on va aller à Venise, mais en musique, puisque nous allons retrouver ce sublime musicien roux, le moine roux, qui est né à Venise et qui a beaucoup inspiré évidemment aussi Proust et Reynaldo Hahn. C'est Vivaldi dans le Stabat Mater. Alors accrochons-nous, on va vivre un moment de grande élévation. Dolorosa, dolorosa, Voilà, vous êtes bien sur IDFM. Nous venons de passer évidemment quelques minutes un peu trop courtes avec Vivaldi et son Stabat Mater. Nous sommes toujours sur IDFM, bien entendu, avec Claude Lévy, et nous sommes en compagnie ce soir de Jocelyne Sauvard, qui publie Proust à l'ombre des femmes, un livre très sensible et que je dirais à la portée de tous, une introduction à la lecture de l'œuvre de Marcel Proust. Donc Venise, que nous quittons à l'instant, est le décor et presque un personnage dans votre livre. Mais si Proust aime les femmes, pouvez-vous nous faire la galerie de ces femmes aimées au grand jour ou plus secrètement? Nous avons commencé à parler, vous avez commencé à parler de cette relation avec Marie Nordlinger. C'est vraiment une sorte d'entrée dans la vie amoureuse, amitié amoureuse.
Amitié.
Amitié avec
oui, mais Marcel. Avec une pointe d'amour et de désir tout de même, parce que quand il la découvre, c'est une jeune fille avec des vêtements sages, etc. Mais ils sont extrêmement proches, ils s'entendent très bien. Elle l'aide pour ses traductions, parce qu'il ne pratique pas parfaitement l'anglais, c'est le moins qu'on puisse dire, et il le dit lui-même. C'est sa mère qui fait la traduction littérale, mais entre une traduction littérale et puis une véritable traduction qui est une œuvre, il abat un travail de forçat, quoi. Il reprend 10 fois.
En l'occurrence, il s'agit de Sésame et le Lys, oui. De John Ruskin, qui c'est est ça. Un historien de l'art et qui évoque dans le détail l'histoire de l'art italien.
L'histoire de l'art italien, effectivement, sacré, italien, français, etc. Sacré, voilà. Et donc, voilà. Et elle l'aide pour ça. Et là, c'est une rencontre intime. Et il remarque finalement, au cours d'une visite chez le grand couturier Fortuny, il remarque que cette jeune Marie Nordlinger, mais elle est ravissante, mais elle n'est pas du tout ravissante comme il la voit à Paris ou ailleurs. Elle est ravissante d'une autre façon, avec sa tunique décolletée et sa poitrine généreuse. Mais elle est très intéressante, cette Marie Nordlinger. Et donc, voilà, il continue à parcourir Venise, à fouler les Stones of Venice, comme dit Ruskin, et en même temps, il est très proche d'elle, à tel point qu'il se demande un moment si, après tout, elle n'aurait pas un sentiment autre qu'amical pour lui. Et c'est aussi la question que se pose peut-être Madame Proust, et peut-être ce qu'elle espère, parce qu'elle qui refuse toujours les jeunes filles à la maison, quand il veut faire un dîner et qu'il a le malheur de dire « oui, il y aura telle personne, telle jeune femme », elle dit « ah, dîner de cocotte ». Tandis que là, elle ne dit rien du tout désagréable et elle lui ouvre la porte.
Et oui, puisque la mère, Jeanne Proust, traduit le Sésame et le Lys et Marie Nordlinger avec Marcel. Alors, c'est très amusant, vous le racontez très très bien, comment ils se rencontrent et il se crée une intimité à la fois intellectuelle et puis sensible aussi autour de ça. Et on se demande même s'ils ne vont pas se marier, non?
Mais oui, on se le demande un moment et je crois que Madame Proust y a pensé. Après tout, c'était du sérieux et puis en plus, c'était une espèce de garantie. On ne se moquerait plus de son fils snob et peut-être quelques allusions montrant qu'il avait un peu une légère tendance à apprécier les garçons. Enfin, ça pouvait être intéressant et puis cette jeune fille était charmante. Alors voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse méditer avec Proust.
Et alors, il se trouve que dans ce voyage à Venise, dans ce séjour à Venise, il y a aussi Reinaldo, oui. Et Reinaldo Hahn, qui est un grand musicien avec des très belles mélodies, il se crée une relation qu'on appellerait aujourd'hui homosexuelle, mais je sais pas, je crois que ça va, ça devrait être différemment défini, cette relation entre eux.
Oui, c'est ça, parce que leur passion est terminée. Il y a eu peut-être Lucien Daudet qui a beaucoup plu à Marcel. Il y a eu des crises de jalousie, mais les crises de jalousie venaient effectivement de Marcel Proust. Il ne pouvait pas s'en empêcher pour un sourire trop appuyé, pour n'importe quoi. Et finalement, ils sont restés très très amis. Et la question qu'ils se posent et qu'on se pose et que la narratrice se pose, c'est après tout, est-ce que l'amitié ne tue pas l'amour ? quand la relation se transforme ainsi. En tout cas, ils parcourent Venise et vraiment ils communient dans des tas de choses qu'il y a à Venise, la beauté, la mer, la musique, si vous voulez, la fameuse petite phrase de Vinteuil dont parle Marcel Proust, tout le monde se casse la tête à chercher où c'était cette petite phrase et peut-être c'était tel grand musicien, peut-être tel autre, peut-être Saint-Saëns. Mais il se trouve qu'à propos de Saint-Saëns, moi j'ai quelques doutes parce que j'ai trouvé un petit mot de Marcel Proust qui est écrit à Reynaldo, je crois, mais je ne suis plus tout à fait sûre, mais en tout cas de la phrase, j'en suis certaine. Oh, jamais un musicien ne m'a emmerdé comme Saint-Saëns.
De Camille Saint-Saëns, il parlait.
Oui. Ah oui. Voilà. Donc, vous voyez, il y a différentes façons de le croire.
La petite phrase de Vinteuil qui revient comme un leitmotiv.
Comme un leitmotiv.
Dans la recherche. Et ça fait partie de ces émotions esthétiques extraordinaires qu'il peut créer et qui restent. Imprégné chez le lecteur, aussi bien les tableaux d'Elstir, le peintre, que cette petite phrase de Vinteuil, accompagnée aussi par Mademoiselle Vinteuil.
Oui, la fille de Vinteuil.
Voilà, la fille de Vinteuil.
Un personnage. Hein.
Bien sûr.
Les deux sont
bien
des
sûr,
personnages.
Bien sûr.
Mais voilà, il y a d'autres musiques. Il y a peut-être parce que Proust était fasciné par la musique. La musique, pour lui, était le plus grand des arts. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait conçu cette musique, la fameuse sonate de Vinteuil. Parce qu'il était en grande admiration devant le vieux sourd, comme il disait, Beethoven. Il était en admiration devant Chopin. Il était fou de Schubert. Il était etc., etc. Donc, il a pu...
Peut-être, mais ça c'est votre fantasme à vous d'avoir un artiste immense écrivain, mais aussi musicien et compositeur.
Mais c'était un grand musicologue aussi, et il discutait à l'infini avec Reynaldo.
Alors, vous savez, on parle de Reynaldo, vous indiquez un événement qui a fait basculer peut-être Proust dans une recherche un peu... malgré lui, vers les hommes. Votre livre est consacré aux femmes et on va continuer à visiter cette galerie.
Ah oui, il y a aussi des hommes.
Mais il y a un événement spécial qui, au lycée Condorcet, où il était élève, avec le fameux prof de philo, Monsieur Darlu, qu'il aimait beaucoup. Mais il y a un événement qui l'aurait fait basculer. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, Jocelyne Sauvard ?
Il y a un ou deux événements. Il était ami avec Jacques Bizet. Ils avaient une sorte d'attirance tous les deux. Et Madame Proust a très vite mis le holà, Jacques Bizet, le grand Bizet, qui était mort déjà. Et Madame Strauss, c'est-à-dire la mère de Jacques, qui avait épousé Monsieur Strauss après, a mis un holà. Mais il y a eu des lettres, des mots, des douceurs, enfin des choses comme ça que les parents ont repérées. Non, Proust ne se cachait pas avec Jacques ou avec ses amis, mais il a senti que là, il fallait cesser. Et puis, il y a eu d'autres garçons pour lesquels il a éprouvé un sentiment et il leur a écrit des lettres plus ou moins tendres, etc. Et à un moment, il a poussé plus loin la chose parce qu'il avait tellement d'humour qu'il avait même l'intelligence de se moquer de lui-même. Et donc là, il a écrit une lettre en disant « Est-ce que vous connaissez ce fatal... » Je vous dis, mais pas exactement, je vous dis de mémoire. « Est-ce que vous connaissez ce fatal MP ?» Vous savez, celui-ci, il est très spécial avec cette petite manière. D'abord, on saura qu'il est très, très snob. Et comme ça, une tartine, une lettre de, je sais pas, 40 lignes. Et donc, voilà, ça a été plus ou moins apprécié par ses amis. Puis finalement, ils ont dit, mais après tout, il est différent de nous, il est tellement sensible, tellement intelligent, après tout. Puis il ressent tout, c'est-à-dire qu'il ressent...
Je pensais à un autre événement, un événement que vous mentionnez de façon un peu plus claire. C'est un garçon un peu dominateur qui vient le choper, comme on dirait aujourd'hui, et il en fait un peu son je sais pas, son gourou. Enfin, il y a une domination d'un garçon, oui. Et qui le fait basculer. Et il se le reproche lui-même, et il en parle à son père,
il en parle
ce
à
qui
son
est très,
père.
Très rare.
Très rare, mais Ils étaient très libres de parole et même d'écrit les Proust, c'est-à-dire Adrien Proust, son père, et puis son grand-père Vel, c'est-à-dire Nathée. Et donc, petit exemple, quand il était très jeune, le père et le grand-père s'étaient penchés sur son cas et s'étaient dit « Oh, ce serait bien de l'envoyer dans une maison close ». Et donc, ça l'ennuyait beaucoup. On guide comme ça sa sexualité pour qu'il ne sombre pas dans les mauvaises manières, comme on disait à l'époque. Et donc, lui, ça l'embêtait, ça ne l'a pas enchanté du tout, c'était très, très désagréable. Et donc, il l'a écrit à son grand-père, et en termes tellement, tellement naturels, presque enfantins, que c'est très drôle, on saisit ça. Mais là, ce n'était pas drôle du tout, là, ça ne l'a pas amusé, le garçon l'a attiré, il a repoussé le garçon, puis finalement, le garçon était costaud, puis... Peut-être qu'après tout, ça l'intéressait, ça l'étonnait. Pourquoi pas essayer ? Enfin, je ne sais pas. Enfin, bref, ça s'est produit. Ils ont eu une étreinte ou des caresses, passons. Et il est allé immédiatement le raconter à son père. Et son père, qui connaissait la vie, qui était médecin, et puis qui connaissait la sensibilité de son fils, n'a rien dit. Mais par la suite, il l'a emmené chez sa grande amie, qui avait été la maîtresse de l'oncle et la sienne, à M. Proust, et très jolie femme, 38 ans, élégante. Ça avait été une courtisane, mais de haut vol. Elle avait séduit 4 princes. Et donc, voilà, il se rend dans son salon. Et il se trouve que le jeune Marcel, 17 ans, 18 ans, bah, il tombe fou amoureux de cette femme. Elle est belle.
Oui, c'est Loreman qu'on va évoquer dans un petit instant. Mais j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur... Les capacités extraordinaires de Marcel Proust, que Céleste Albaret d'ailleurs relève tout le temps lorsqu'on lui pose la question, mais qu'est-ce qui fait le talent de Monsieur Marcel ? Elle disait, mais c'est son don d'observation. Et Marie Nordlinger, dont on parlait, que vous citez, elle dit la chose suivante qu'on trouve dans votre livre « Proust à l'ombre des femmes », page 97, parce qu'elle voit en Marcel un être d'exception. Et elle lui dit ceci, peut-être sous votre plume, je ne sais pas, « Vous écoutez d'une façon unique, avec une attention exceptionnelle et une grande intuition. Ce que je vous dis, vous l'écoutez intensément, mais... Vous le saviez, avant que je ne parle, vos yeux percent mon âme, vous êtes voyant, d'une façon que personne d'autre ne possède. Vos yeux de devin me guident. » Marie était donc fascinée par Marcel.
Oui, parfois ce sont des choses que je transcris, que j'ai lues entre les lignes, et parfois, quand c'est en ital, quand c'est entre guillemets, c'est... Le héros, c'est Marcel.
Ah, ça fait partie de ces qualités extraordinaires qu'il pouvait avoir. Et c'est ce qui en fait...
C'est un voyant.
C'est ça. C'est un, et c'est pour ça, ce n'est pas un écrivain comme les autres. Ce n'est pas un auteur... Il a une sorte d'intemporalité dans l'histoire de la littérature et qui nous marque encore. Oui. Une autre femme fascinante, c'est la comtesse de Grefful.
Très belle, oui.
Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle ?
Pas grand-chose. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il l'a vue à une soirée. Il avait la chance d'être à cette soirée alors qu'il était jeune homme. Admis dans cette soirée, il voit la comtesse de Grefful, il la trouve magnifique, il admire sa toilette. Et à l'époque, il était jeune journaliste et il écrivait les salons pour Le Figaro ou pour d'autres revues. Et donc, il décrit ce salon et il était tellement soufflé qu'il écrit aussi une lettre à Montesquieu, au poète Montesquieu.
Robert de Montesquieu,
voilà, son grand ami, si l'on veut. Enfin, bon, c'était... Oui, ils étaient amis, mais Montesquieu, il avait fallu faire, il avait fallu en faire son ami pour accéder au grand monde et surtout pour que son œuvre accède à la postérité.
Ah oui, il n'était pas complètement désintéressé à l'accueil de son...
Comme tout jeune auteur ou jeune acteur qui essaie d'approcher les milieux du cinéma, c'est fermé, les milieux de la littérature, ce sont des clans, etc. Donc voilà, tant mieux s'il s'entend avec Montesquieu. Et alors, il appréciait les poèmes de Montesquieu. Et en même temps, il riait à perdre haleine quand il imitait Montesquieu et tout le monde était riait aux larmes parce qu'il imitait parfaitement.
Oui, on imagine mal Marcel Proust faisant rire la galerie. Alors, on va écouter justement cette musique de Reinaldo Hahn dont on a parlé tout à l'heure. Et j'aimerais, et c'est, d'ailleurs c'est votre choix, que l'on écoute L'heure exquise avec Philippe Jaroussky, haute contre. Vous êtes bien sur IDFM dans l'émission Entre Chien et Loup avec Claude Lévy et je suis en compagnie ce soir d'une grande écrivaine, 42 volumes à son actif, ce n'est pas rien, des romans, du théâtre, des biographies et ce livre très, très particulier consacré à Marcel Proust et les femmes, Jocelyne Sauvard, qui est l'auteur donc de ce Proust à l'ombre des femmes qui dévoile, on le voit, des aspects cachés de l'homme et de l'œuvre. Tout au long de ce livre, je dois vous le dire, flottent de discrètes mais parfois puissantes effluves sensuelles et d'un érotisme troublant.
Mais Proust a écrit des textes très érotiques, on n'en parle jamais, mais il suffit de relire ou de lire entre les lignes. Vraiment, moi, j'ai eu des surprises pour beaucoup de ses œuvres. Et notamment, on en parlera plus tard, mais je m'étais posé la question quand j'ai lu toute jeune La Recherche, mais est-ce qu'il a connu Rimbaud ? Parce qu'il y a des choses qui sont tellement sensuelles, tellement on a l'impression de sentir les fruits, on a l'impression de sentir la pluie. Il y a tellement de sensations, je me demandais... Est-ce qu'il a lu Rimbaud ? Et je l'ai cherché jusqu'à ce que je me mette à écrire Céleste et Marcel, c'est-à-dire il y a 2 ans, Un amour de Proust. Et là, j'ai relu pour je ne sais combien de fois, pas La Recherche, mais l'un des volumes de La Recherche. Et là, j'ai trouvé le mot Rimbaud. Je ne sais pas, j'étais aveugle avant ce mot, je ne le voyais pas. Ou je ne sais pas, il m'avait échappé. Et oui, il connaissait Rimbaud.
Mais vous dites d'ailleurs qu'il connaissait énormément de choses de la littérature, à la fois de la littérature sacrée, mais aussi de la poésie, du théâtre, de...
La Bible.
De la Bible, oui, bien sûr.
La Bible. Oui, la Bible, c'était sa Bible, c'est le cas de le dire. Il l'a découvert tout seul, on ne l'obligeait à rien. Sa mère, Madame Proust, ne l'obligeait à rien du tout. Et Monsieur Proust était, lui, catholique. Mais vous savez, catholique sans aller à la messe tous les dimanches, quoi. Voilà, et donc Marcel et son frère Robert étaient baptisés, ils ont fait leur communion. Et évidemment, avec leurs parents, surtout avec leur mère, ils allaient aux églises parce que c'est tellement beau, l'architecture.
Surtout celle d'Illiers, voilà. À Combray, bien sûr.
Voilà.
Au moment de Pâques où la famille arrivait et où ils avaient leur place. Voilà. Et on trouve encore
à
Illiers-Combray la place des Proust. Enfin, on reprend l'idée que vous avez creusée avec beaucoup de finesse sur la sensualité et l'érotisme qui se dégage de votre livre. On parle de Loreman que vous avez, dont vous avez évoqué les qualités de très belle femme.
Très belle femme, oui. Et très élégante.
Quelle
aussi.
Était leur relation avec Loreman?
Eh bien, écoutez, on dira ce qu'on voudra. On dira si on veut que Proust n'a jamais touché une femme comme certains le lui disaient, ce qui l'exaspérait, ou comme certains l'ont dit. Mais n'empêche qu'il allait très souvent dans son salon, en tant chien et loup, et il restait jusqu'à pas d'heure à parler avec Laure, et il lui envoie des lettres qui parlent peut-être des chrysanthèmes, qui parlent peut-être des cattleyas, qui parlent du thé.
Qu'est-ce que c'est que les cattleyas comme fleurs?
C'est l'orchidée.
Mais encore, chez Proust, ça veut dire quelque chose d'autre.
Ah ben oui, bien sûr. C'était dans Proust et Odette, dans Swann et Odette. Alors, on fait un petit bond en arrière. Donc, c'était l'amour de Swann et Odette. Et Swann était fou d'amour pour cette femme. Et elle lui avait fait connaître les Verdurins. Et quand elle quittait la soirée Verdurin, il l'accompagnait dans un fiacre. Et donc, elle avait des cattleyas, ces très belles orchidées blanches, épinglé sur son décolleté. Et à un moment, Cattleya baisse un peu de l'œil. Et alors, Swann se rapproche d'elle et dit « Oh, mais écoutez, ce Cattleya ne va pas bien. Écoutez, je vais vous le rattacher. Je ne vous fais pas mal. Non, non, vous ne me faites pas mal. Mais écoutez, attendez, je le fais mieux. » Et alors, de Cattleya en aiguille, eh bien, on arrive au moment où elle l'invite chez elle. Donc là, cette fois, il entre. Et puis, ils font Cattleya, comme dit Marcel Proust.
Et oui, et je vais vous citer la page 124. Il couvrait Loreman de fleurs et de lettres, conjuguant l'admiration intellectuelle et la vénération amoureuse, sans faire une seule allusion à l'exigence d'exclusivité.
Et lui, le jaloux.
Lui, le jaloux, c'est ça qui est fou. Oui. Et quand une femme, alors voilà ce que dit Proust, quand une femme, comme une œuvre d'art, nous révèle ce qu'il y a de plus raffiné dans le charme, de plus subtil dans la grâce, de plus divin dans la beauté, de plus voluptueux dans l'intelligence, on est coreligionnaire en Loreman. Quand même pas mal comme
pas
compliment.
Mal, hein.
Et y a de quoi faire un peu de Cattleya avec elle, puisque c'est à la fois l'esprit et le corps qui parlent.
Tout à fait. Et donc voilà, et les choses comme ça continuent, et il continue à lui envoyer des lettres qui sont loin d'être timides et qui touchent tout le temps à la sensualité.
C'est, alors justement à propos, puisque la recherche est traversée par un mot, par plusieurs mots évidemment, c'est celui de la mémoire, mais aussi celui du désir. Et c'est peut-être
désir.
Pas complètement innocent. C'est à la fois de la mémoire et du désir, mais aussi de l'amour et de la jalousie, vous l'avez dit. Et c'est peut-être ça qui sont les ferments de sa création à Marcel Proust. Comment est-ce que, d'après vous, ce désir se traduit dans cette œuvre gigantesque?
Eh bien, la recherche du temps perdu, c'est vraiment le plus grand livre qui soit. On peut dire roman, on peut dire autre chose. C'est une œuvre gigantesque qui contient aussi la philosophie, la poésie, etc. sur le désir. C'est une histoire de désir. Le désir des femmes, le désir du corps, le désir des hommes et le désir d'écrire et le désir. Voilà.
Mais c'est un désir à la fois intellectuel, et c'est ça qui est très étonnant.
Et physique.
Et physique. C'est, oui. C'est-à-dire qu'il fait vraiment le lien entre les deux, et c'est pour ça, je crois, qu'il touche encore autant le lecteur. On a vu Venise, mais on n'a pas évoqué Balbec, qui est aussi où il y a beaucoup de désir.
Tout à fait, pour ces jeunes filles. Et puis, les jeunes filles entre elles, les jeunes filles qui aiment les femmes, les femmes qui aiment les jeunes filles, qui les séduisent, etc.
Dans le Sodome et Gomorre, qui est un des romans de la recherche, il est question de ça, mais il est aussi question de la guerre et des années 1915-1916 à Paris.
Oui. Oui.
Hein, c'est pas complètement indifférent. Une autre jeune fille que vous décryptez... un peu, c'est la jeune fille aux roses, un peu
oui,
mystérieuse.
C'est un mystère, ça. Ça, c'est un mystère. Voilà. Alors, j'ai essayé de l'éclaircir. Et donc, ils seront à un bal et il est très jeune. Il porte le vêtement comme tous les jeunes gens. Mais le sien, il faut qu'il soit plus voyant. Donc, on va le remarquer, ça l'ennuie beaucoup. Il n'est pas sobre. Et puis... une jeune fille arrive, traverse toute la foule qui se rend au buffet, boire du champagne, et qui porte l'habit, vous savez, la queue de pie, etc., le vêtement noir. Et elle s'arrête devant Marcel Proust, et elle, avec la cohue, elle se renverse un peu sur lui. Et donc, elle est sur lui, enfin Marcel Proust, on va dire le narrateur, hein, là je ne voudrais
oui.
pas...
Oui, c'est plutôt le narrateur.
Entrer
oui.
dans sa vie, sur le narrateur. Et donc, il est très, très sensible à ça. Il a son buste contre lui. Et donc, il remarque le décolleté avec des roses rouges épinglées, safran, des couleurs violentes, très, très sensuelles. Et donc, il sent son parfum. Et il est fasciné par ça, et ça va être une recherche.
Très belle, très beau passage sur ce mystère de la jeune fille aux roses. Et nous allons écouter une musique plus contemporaine, enfin, entre le 20e et le 21e siècle. C'est votre choix aussi, c'est Nuit de Chine.
Voilà. Ça a été enregistré en 1922, mais c'était déjà présent, vous savez, par les chansons qu'on vendait dans la rue, puis ça se chantait.
Quand le soleil descend à l'horizon, à Saïgon, les élégantes s'apprêtent des sangons de la remède. Peuple s'y crie, au milieu des jardins fleuris, au vol des oiseaux jolis du paradis. Chandre-moi dans la paix, chagrisons. Pour un soir de bonheur.
toujours sur IDFM dans l'émission Entre chiens et loups avec Claude Lévy et mon invité ce soir Jocelyne Sauvard qui publie un livre fort, étonnant et subtil sur la relation de Proust avec les femmes. On a évoqué plusieurs femmes, mais dans la recherche il y a 600 personnages, donc quelques femmes évidemment. Et j'aimerais que vous nous parliez très malheureusement assez rapidement de Céleste qui a tellement compté dans les 10 dernières années de sa vie.
Alors Céleste, c'était une jeune femme de 22 ans quand elle est arrivée chez Marcel Proust pendant la guerre, parce que son mari, Odilon, le chauffeur de Marcel Proust...
Odilon Albaret, voilà. Et Céleste Albaret.
Est partie au front. Et donc, elle venait de se marier, elle s'ennuyait. Odilon l'avait dit à Marcel Proust, qui lui avait dit, écoutez, Odilon, elle s'ennuie de sa mère, c'est tout simple, c'est pas autre chose. Envoyez-la moi, et elle ira porter les livres à mes amis, tout ça, ça la distraira. Donc, Céleste arrive, elle s'acquitte de sa tâche, et elle est fascinée par ce monsieur qu'elle appelle un grand seigneur, avec sa chemise blanche, ses grands yeux à l'orientale, et puis ses mèches noires. Et donc, voilà, elle est subjuguée. Et finalement, pendant la guerre, quand les troupes tombent, etc., et que c'est le drame dans Paris, tout s'effondre, eh bien, elle vient dormir boulevard Haussmann. Elle dit, je suis allée coucher boulevard Haussmann au 102, chez Marcel Proust. Alors, elle avait sa chambre au fond de l'appartement, et elle vivait à l'heure de Marcel Proust. Il se levait vers 6 heures, je veux dire, du soir. Et donc, elle lui portait son petit déjeuner. Et puis ensuite, il écrivait, etc. Ou alors, il discutait. Et souvent, il ressortait vers les minuit, 1 heure du matin par là, rentrait vers les... à pas d'heure, comme dit Céleste. Et puis là, eh bien, elle était là, derrière la porte, avec son beau sourire. Et lui, parfois, il rentrait avec des débris des éclats d'obus sur les épaules, parce qu'il se baladait comme ça. Il était fasciné par la lune, les lumières, tout ça. Elle lui disait, mais monsieur, enfin, regardez-moi ça, regardez ce que vous avez sur... Donnez-moi votre pardessus, regardez, est-ce que c'est prudent ça? Ah, mais Céleste, écoutez, il faut vivre. Écoutez, venez, ne restons pas sur nos jambes ici, venez avec moi dans la chambre, on sera mieux pour causer. Et parce qu'il savait qu'elle s'ennuyait, qu'elle l'attendait, mais qu'elle l'attendait comme le Messie, c'est le cas de le dire. Et alors, elle restait près de lui, près du lit de cuivre, accoudée au montant. Elle disait, non, je ne veux pas m'asseoir dans le fauteuil. Monsieur Marcel, appelez-moi Marcel, Céleste, s'il vous plaît, je vous en conjure. Je ne veux pas m'asseoir et je vous entends mieux comme ça et puis je vous vois. Et donc, il lui faisait revivre toute la soirée, folle ou pas folle, qu'il avait vécue dans le monde du faubourg Saint-Honoré, qu'il appelle dans le roman le faubourg Saint-Germain, chez les snobs, chez les pas snobs, chez les ducs et les duchesses, chez les gens... tout à fait ordinaire, chez les gens qui faisaient des vilaines choses et aussi dans les maisons de passe pour hommes où il avait observé à travers un vasistas.
Oui. Vous le racontez tout ça très subtilement et on est un peu derrière le vasistas aussi avec vous, Jocelyne Sauvard. À plusieurs reprises de votre livre, vous faites une synthèse sur ce qu'est le monument littéraire qu'est la recherche du temps perdu. Et j'aimerais en donner à nos auditrices et nos auditeurs un bref extrait, une brève définition de ce qu'est la recherche. C'est dans votre introduction. Vous dites « Les jeux de la mémoire du narrateur, d'Albertine, des femmes fleurs, l'anticipation du narrateur reconstitue le monde à travers le prisme de l'amour et de la jalousie, tandis que gravite autour d'eux la guerre, la mort, la ronde des êtres et tout particulièrement le désir innombrable sous toutes ses formes, dont le désir d'écrire, thème essentiel du grand œuvre. » Je crois que vous résumez très 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 bien monument.
Je vous remercie. J'ai mis aussi une petite chronologie pour que les gens ne se perdent pas. Voilà. Et puis, tout est indiqué, si vous voulez, quand c'est Marcel Proust qui s'exprime, ou le Marcel fictif, ou son narrateur, c'est Chronique de la vraie vie. Chronique parce que la vraie vie, c'est la littérature pour Marcel Proust. Et puis, quand c'est le narrateur de Marcel Proust ou de ce livre, c'est Réminiscence. on ne s'y perd pas. Et quand c'est Marcel Proust, c'est entre lui.
Et c'est remarquablement construit, remarquablement mené. Et les spécialistes de Proust apprécient tellement. On a cité Jean-Yves Tadier, mais je vais aussi citer Alain Vercondelet, qui dit de votre livre, « Jocelyne Sauvard restitue un Proust libre et bouleversant dans sa quête d'amour. » Le lecteur devient son compagnon de route. Voilà, un grand merci Jocelyne Sauvard.
Un grand merci Claude Lévy.
Je rappelle le titre de votre beau livre, accessible à tous, à ceux et à celles qui ont lu Proust ou qui n'ont jamais osé pénétrer dans le monument. Voilà, Proust à l'ombre des femmes aux éditions Écriture. Merci à Francky qui a réalisé cette émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h pour une nouvelle émission Entre chiens et loups. D'ici là, portez-vous bien et bonne écoute à l'écoute de nos programmes. Bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Merci sur IDFM, bien sûr.
IDFM en DAB+ sur toute l'Île-de-France.
Mamaïla revient le 29 octobre 2022 au Tapis Rouge à Colombes. Après un spectacle complet à guichet fermé à l'Atrium Scène Nationale en Martinique en juin dernier, Mamaïla vous retrouve en Île-de-France pour son concert Mamaïla Perfecta, tribute to Daniel Marie Alphonsine au Tapis Rouge, 9 rue de la Liberté à Colombes, samedi 29 octobre 2022 à 20h. Venez découvrir ou redécouvrir les plus belles compositions de la cadence martiniquaise pour danser, swinguer et partager du soleil et de la joie pendant plus de 2 heures de concert autour des plus grands succès de la mythique Perfecta, par les 18 musiciens, chanteurs et danseurs de Mamaïla. Un événement présenté par CactifTV.com, restauration gourmande proposée par Lily Bangou. Une production SMS Artiste. Billets disponibles sur place et sur Bizouk. Renseignements au 06 74 62 72 25.
IDFM Radio, partenaire officiel de SMS Artiste.